Chapitre 25. Personne se mourait. Arman ne cessait d'entrer et de sortir de la petite pièce du rez-de-chaussée aménagée en infirmerie de fortune, bien peu performante d'ailleurs. Il s'y trouvait des livres que l'on pouvait sigler en quête de planches anatomiques et de cours de secourisme, mais personne était le seul à savoir traiter les blessures les plus graves. Deux des malheureux enterrés au nouveau cimetière, situé près du coin nord-ouest de la palissade, étaient morts ici, à l'issue de plusieurs journées d'agonie. Ada ne le quittait pas d'une semelle, et ce, depuis qu'il avait franchi en chancelant la porte nord moins d'une heure plus tôt, et elle ne cessait de lui prendre la main ou de lui caresser le bras, comme pour s'assurer de sa présence effective. Arman avait reçu ses soins allongés à côté de personne. Il avait fallu recoudre ses plaies les plus profondes et lui administrer de l'antiseptique maison, c'est-à-dire de l'alcool pur, mais les terribles blessures dont souffrait personne, son bras en charpie et son cuir chevelu déchiré, dépassaient de loin leurs connaissances, tant théoriques que pratiques. Il s'était contenté de les désinfecter, de lui recoudre le crâne et d'appliquer de l'antiseptique sur ses tissus à vif. Personne n'avait même pas daigné reprendre conscience sous cette douche d'alcool. Mais son bras semblait condamné, seuls des ligaments déchiquetés et des os fracassés le reliant encore à son torse. Les bandages dont on l'avait enveloppé étaient déjà saturés de sang.
« Il va mourir, n'est-ce pas ?» demanda Anna.
Elle n'avait pas bougé d'un pouce depuis leur arrivée, même pas pour aller se changer. Pendant qu'on soignait son épaule pailladée, à coups d'antiseptique et d'aiguille à coudre, elle n'avait pas quitté personne des yeux.
« Oui, j'en ai peur, » répondit Petyr.
« Il ne survivra pas.
Pourquoi reste-t-il inconscient ?»
« À mon avis, c'est une conséquence du choc qu'il a reçu et non des coups de lame, » hasarda Arman. Même s'il avait siglé sans traiter d'anatomie et de physiologie, ragea-t-il, il demeurait incapable de procéder à une simple trépanation. Outre leur absence d'expérience, la médiocrité des instruments dont ils disposaient garantissait aux patients une mort aussi rapide que certaine. Qu'ils agissent ou qu'ils s'en abstiennent, personne Odysseus n'en avait plus pour très longtemps. Ferman, leur infirmier de facto, qui avait siglé bien plus d'ouvrages de médecine qu'Arman, s'affairait à affûter une scie et un coup près au cas où on déciderait d'amputer le bras du blessé.
« Va falloir prendre une décision, »
murmura-t-il, et il retourna à sa meule. Anna se tourna vers Petyr.
« Je l'ai entendu marmonner pendant que tu le portais jusqu'ici, mais je n'ai pas saisi ce qu'il disait. Tu y as compris quelque chose, toi ?»«
Pas vraiment. » Ce n'était que du charabia pour moi. Je crois bien qu'il s'exprimait dans le langage qu'emploie l'autre Odysseus, celui du Turin.
Du grec ancien, dit Arman.
Peu importe, fit Petyr. J'ai bien capté deux mots d'anglais, mais ils n'avaient aucun sens.
Lesquels?
Demanda Anna.
Il a parlé du guet ou de quelque chose comme ça. Et puis d'une brèche, je crois bien. Mais il marmonnait dans sa barbe, les sentinelles criaient, et moi je commençais à halter. Comme on s'approchait de la porte quand il a dit ça, il nous conseillait sans doute d'ouvrir une brèche si le guet nous refusait le passage.
« Mais ça n'a aucun sens !»
protesta Anna. « Il souffrait le martyr et sombrait dans le coma !» répliqua Petyr.
« Peut-être, » dit Arman. Il sortit de l'infirmerie avec Ada accrochée au bras et se mit à faire les 100 pas dans le manoir. Une cinquantaine de personnes, sur les 400 qu'abritait Artis, se trouvaient au réfectoire.
« Tu devrais manger quelque chose ?»
dit Arman en touchant le ventre d'Ada.
« Tu as faim ?»«
Pas encore. » À vrai dire, les douleurs qui taraudaient sa jambe blessée lui donnaient une vague nausée, à moins que ce ne fût le spectacle de personnes gisant à l'agonie.
« Anna va avoir le cœur brisé, »
murmura Ada. Arman acquiesça d'un air distrait. Un détail le tracassait et il espérait le voir émerger de son subconscient. Ils traversèrent l'ancienne salle de bal, où plusieurs douzaines de personnes travaillaient devant les longues tables, confectionnant des flèches aux pointes de bronze et à lampennes taillées sur mesure, ou encore des arcs aux formes élégantes. Nombre d'entre elles les saluèrent d'un signe de tête. Arman se dirigea vers l'annexe aménagée en forge, une pièce surchauffée où trois hommes et deux femmes martelaient des lames de bronze pour en faire des couteaux ou des épées, puis les affûtaient sur des grosses meules. Le matin venu, songea-t-il, on apporterait le métal fondu provenant du cubilo et la chaleur deviendrait insoutenable. Il marqua une pause pour soupeser une épée quasiment achevée, qui n'attendait plus qu'une gaine de cuir autour de sa poignée.
Quelle arme grossière!
Si grossière comparée non seulement à la splendide épée de Circé, et qui sait où personne se l'est procurée,
mais aussi aux armes élégantes qu'on voyait dans le Turin. Et quelle pitié que les premières productions technologiques humaines depuis 2000 millénaires soient des armes, ces fléaux de l'humanité dont l'heure a de nouveau sonné.
Alors qu'ils regagnaient le bâtiment principal, Rayman surgit brusquement devant eux. Il avait rejoint les sentinelles après avoir accompli son service aux cuisines. La pluie ne cessait de tomber depuis le crépuscule, et il était trempé de la tête aux pieds.
« Qu'y a-t-il ? » demanda Ada.
« Les Voynix ! Plein de Voynix ! Jamais je n'en avais vu autant !»«
Ils sont déjà sortis du bois ?»
s'enquit Harman.
« Non, ils se massent sous les arbres. Il doit y en avoir des centaines !»
On entendit des signaux d'alarme retentir sur tout le pourtour de la palissade. Les cornes sonneraient dès que les Voynix lanceraient leur attaque. Le réfectoire se vida, tous saisissant leurs armes et leurs manteaux pour rejoindre leur poste sur les remparts, dans la cour ou dans le manoir proprement dit, sur un pas de porte, un pignon, un avant-toit ou un balcon. Harman restait immobile. La foule coulait autour de lui comme un fleuve.
« Harman ?»
fit Ada à mi-voix. Remontant le courant, il la conduisit dans l'infirmerie où personne se mourait. Anna avait enfilé un manteau et trouvé une lance, mais elle semblait incapable de quitter son chevet. Pétir, qui allait sortir, changea d'avis en voyant Harman et Ada se planter devant la couche sanglante de personnes.
« Il ne parlait ni de guet ni de brèche, » murmura Harman. « Il parlait du Golden Gate. La crèche du Golden Gate. »
Dehors, les cornes sonnaient.